De vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Qui de vous, ami auditeur de Tranche de vie, n'a pas pesté en revenant de vos vacances en Espagne contre les files ininterrompues de camions que vous deviez doubler sur l'autoroute? Qui n'a pas râlé quand un semi-remorque vous a empêché de prendre des libertés avec le 90 sur une route secondaire en attendant un hypothétique créneau de dépassement? Mais avez-vous pensé à ce qu'est la vie de ces hommes et de ces femmes qui pilotent ces géants au centimètre près alors que vous ratez encore vos créneaux avec votre Twingo? Et ceci pour vous fournir presque tout à temps. Derrière la mythologie et la légende des routiers, il y a la réalité d'un grand métier que Gérard et Christophe, alias Maverick, ont accepté de nous faire découvrir, et je les en remercie au nom de RLP. Maverick, Gérard, bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de RLP.
Bonjour, bonjour.
Est-ce que vous allez pouvoir dire à nos auditeurs dans quelles circonstances vous avez choisi ce métier qui est encore celui de Maverick et qui a été jusqu'à récemment celui de Gérard? Alors Gérard, comment êtes-vous devenu routier, puisque je m'adresse à vous d'abord puisque vous êtes l'aîné?
Ouais. Ben, c'est venu comme ça par mon père. À l'âge de 9 ans, j'ai voulu faire ce métier parce que ça me plaisait de voir mon père rouler avec un gros camion. Quand les gamins, on adore les camions. Et puis par la suite, bah, j'ai réussi à passer mes permis et on part en sortant de l'armée et me voilà parti sur les routes d'Europe.
Donc votre choix, c'est de père en fils.
Voilà.
Voilà. Maverick, vous, comment c'est venu? Comment vous êtes tombé dedans?
Moi, c'est le goût des camions et la passion des camions. Oui. Voilà.
Mais ce n'était pas une tradition familiale?
Du tout. Non.
Alors, pourquoi avez-vous voulu, en dehors de votre amour des camions, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier, Gérard?
Ah ben d'être en hauteur quand on roule, c'est les paysages qu'on peut découvrir en roulant, il y a tout un truc qui rentre, comment je pourrais dire, c'est merveilleux pour moi, c'était le métier que je voulais faire, il y a un tas de choses qui s'accompagnent à ça, la tranquillité, pas de chef derrière soi, bon, certains clients, des fois c'est pénible, d'autres ça se passe bien, il y a une bonne sympathie qui peut se faire. Avant, les routiers, on était très bien respectés, maintenant, aujourd'hui, c'est tout à fait différent, on nous oblige à vider les camions, à charger les camions, qu'à ça, l'époque, oui, on faisait notre trajet et on nous vidait les camions.
Ça, ce sont des aspects sur lesquels on va revenir, sur la manière dont le métier s'est complexifié et puis est devenu quelquefois même peut-être un petit peu désagréable. Maverick, vous, qu'est-ce qui vraiment vous plaît en dehors de l'amour des camions, qu'est-ce qui vous permet de continuer à faire ce travail? Et ce travail, vous le faites dans quel cadre? Est-ce que c'est à l'international? Est-ce que c'est seulement en France?
Pour l'instant, je le fais plus qu'en France, à cause de l'évolution des pays de l'Est qui prennent le fret partout, et nous, moi j'en ai fait 32 ans d'international, donc maintenant je fais que de la France, oui. Malheureusement.
Vous avez fait longtemps de l'international, vous avez une grande expérience des transports internationaux. Alors je voudrais rappeler aux auditeurs quand même que le secteur du transport international en France, c'est 210 000 chauffeurs routiers, et ça génère quand même entre 43 et 47 milliards d'euros hors taxes, donc c'est pas rien. Gérard, quelle évolution vous avez vue au cours de votre expérience dans le métier?
Ben déjà, le confort des véhicules. On avait des Volvo qui étaient très, très durs. Les sièges n'étaient pas très confortables. Les couchettes étaient plus petites. On n'avait pas de chauffage de nuit, pas de clim non plus. Dans les pays chauds, ou dans les hivers très froids où on dormait, j'ai vu dormir dans la cabine avec moins 19 et moins 22 dehors. Oui, et puis en Italie, ben, on s'est retrouvé l'été avec des 27, 28 degrés dans la cabine pour dormir. C'est pas évident quand on n'a pas la clim.
Alors ça, c'est à peu près à quelle époque à laquelle vous faites allusion là?
Oh, ben, j'ai commencé ce métier, c'était en 76. Et ouais, j'avais un Volvo, c'était un beau camion, il me plaisait, mais on n'a été pas habitué encore au confort. Alors qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a du matériel qui est sensationnel. D'ailleurs, Maverick pourra vous en parler, c'est l'idéal aujourd'hui, il y a des bons véhicules. Le confort et la clim de nuit, le chauffage de nuit, tout ça, c'est vraiment l'idéal maintenant.
Maverick, vous confirmez, là, ça s'est vraiment amélioré de ce côté-là?
Oui, moi, ça fait que 30 ans que je roule et j'ai connu pendant 10 ans des camions où il n'y avait pas encore le chauffage partout, la clim encore moins. Et là, maintenant, c'est monnaie courante. Maintenant, on ne peut plus conduire sans chauffage ni sans clim pour la fatigue, le repos. C'est important.
Et les systèmes de freinage?
Oui. Alors ça c'est autre chose.
Et les boîtes automatiques.
Alors là, ça c'est autre chose. Alors d'accord, la conduite assistée. Enfin, alors qu'est-ce qui dans le confort de conduite, en dehors du confort de couchage et de d'installation, qu'est-ce qui s'est amélioré? Un peu, on va faire un petit peu de mécanique.
Oh ben, en mécanique, on va voir avec Christophe, hein, il est plus doué que moi là sur le mécanique. Hein. Le ralentisseur qu'on avait. On a eu les Telma, et par la suite, moi le dernier que j'ai eu, c'était, comment on appelle ça déjà, le retardeur, l'intardeur. Ça c'est une sécurité, même pour nous, et pour les gens qui sont autour de nous, en voiture, ou les piétons, quoi. Le système de freinage est vachement amélioré. Quoi.
Oui, c'est peu comparable à une innovation comme l'ABS, par exemple, dans la conduite.
Oui, voilà, l'ABS est partout maintenant, même sur les camions.
Hein. D'accord.
Ouais. Sur les remorques aussi, il y a l'ABS, sur les camions. Maintenant, on freine, on ne fait plus chauffer les freins, on a des ralentisseurs électriques et sur gaz d'échappement qui coupent les gaz. Maintenant, on conduit quasiment sans toucher les pédales. Hein. De frein.
Par rapport au début de votre carrière, est-ce qu'au début de votre carrière, vous aviez une connaissance assez étendue de la mécanique du camion? Et puis, progressivement, que c'est devenu tellement compliqué que vous avez perdu pied? Ou bien est-ce que vous êtes toujours capable de dire, bah, tiens, il y a ça qui ne va pas?
Ben, normalement, on doit quand même savoir avoir quelques notions. Là. C'est ce que le patron, quand il vous embauche, vous avez un peu de connaissance sur la mécanique. Et ben, on se trouvait des systèmes D, mais il fallait se débrouiller. Maintenant, quand c'était une grosse panne, bon, on était obligé d'aller au garage. Et aujourd'hui, tous les véhicules sont garantis, donc on ne touche à rien. Même une roue crevée, on n'y touche plus maintenant. C'est interdit. C'est les sécurités qui sont faites comme ça.
C'est un dépanneur
qui vient sur place. Ouais.
D'accord.
Il n'y a plus de roue de secours, d'ailleurs, alors, pour gagner du poids.
La dernière chose, là, j'ai été trop loin, vous dites, il n'y a plus de roue de secours?
Non, il n'y a plus de roue de secours. Parce que ça fait du poids, en plus, sur le véhicule à vide. Alors que les patrons, eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner de la charge utile.
Oui, parce que Dieu merci, on ne crève pas tous les jours. Donc, on n'a pas besoin d'une roue de secours en permanence. Après, on a des contrats avec dans toute la France et en Europe, avec des marchands de pneumatiques. On appelle, ils viennent nous dépanner, puis ils envoient la facture après à nos patrons.
Et puis, les véhicules aujourd'hui, ils sont tous en location. C'est, les patrons n'achètent plus un camion. C'est une location-vente et qui est garantie avec pendant 2 ans, c'est 2 ans, 2 ou 3 ans. Ouais. Et puis, ça veut dire que si vous avez une panne, vous touchez à rien. Le garagiste va venir, ça soit Renault, Scania, Volvo, ils viennent vous
répondre. Le système du leasing s'est étendu poids lourd aussi. Oui.
Voilà.
Bon, ça c'est quand même. C'est des changements quand même très importants.
Et à l'époque, il fallait avoir sa caisse à outils, c'est vrai. Ouais. Bah, les chauffeurs qui faisaient du Moyen-Orient, ils voyageaient leur caisse à outils. Hein. On a des reportages où on voit des routiers qui changeaient même une boîte de vitesse au bout de la route. Hein. Chez nous, en France, non, c'était pas. Tant qu'on faisait de la France ou de l'Europe, je pense que c'est beaucoup les routiers qui étaient sur du Moyen-Orient ou le routier africain, tout ça.
On avait le minimum, quand j'ai commencé il y a 30 ans de ça, on avait un minimum, les courroies, des barres pour se changer les roues, des bidons d'huile, des bidons de liquide de refroidissement, un minimum, des cosses, pour se dépanner, connaître les bases. Mais maintenant...
Et puis alors bon, je pense que pour la communication aussi, ça a dû changer beaucoup. Vous êtes plus isolé comme vous pouviez l'être si vous tombiez en panne en pleine campagne.
En plus avec les portables, les téléphones, maintenant, avant fallait, ouais, c'était différent. Avant il fallait se déberder pour faire du stop, pour aller trouver un garage ou une cabine téléphonique.
Entre-temps, il y a eu quand même cette mode de la CBI dont on parlait tout à l'heure,
ah, ça, ouais.
qui a été
un grand phénomène.
Ça a correspondu à quoi, ça?
Ben, c'était pour communiquer entre nous,
Les bons
pour
restaurants.
se guider. Quand on arrivait dans une ville qu'on ne connaissait pas, on cherchait un client, on passait un appel à la radio. Il y avait toujours une personne qui faisait de la radio amateur et puis qui nous guidait pour aller chez le client. Normalement, ça marchait très bien, ça. Bon, il y a quelques rigolos, mais bon.
Ça servait à plaisanter,
j'imagine
aussi, oui.
On se permettait de rouler et se mettre en boîte mutuellement aussi. Hein. On se chambrait, parce que bon, il fallait bien faire un peu d'humour aussi. Hein. Et on se donnait les bonnes adresses pour les restaurants. Les restaurants routiers qui aujourd'hui, beaucoup ont disparu, à cause du progrès des véhicules qu'il y a aujourd'hui.
Alors ça, justement, c'est la rançon de l'amélioration de votre matériel, c'est que ben, vous n'avez presque pratiquement plus, vous êtes complètement devenu complètement autonome. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin éventuellement de vous arrêter à midi ou à vous arrêter, mais vous pouvez faire votre cuisine vous-même. Vous êtes tellement bien équipé que.
Voilà, maintenant les véhicules, comme Christophe, il a, il est équipé.
Maintenant, les véhicules sont fournis avec des frigos, voire des micro-ondes sortis d'usine sans option, on demande. Et c'est vrai qu'avec le coût du Covid, il a bien fallu qu'on s'adapte aussi, ce qui fait que ça. Vu que les restaurants, tout était fermé, il fallait bien qu'on mange aussi, puisque nous, on continue à travailler pour livrer tous les magasins, fallait bien qu'on mange aussi. On s'est vu refuser des douches, des toilettes dans les usines,
Les boissons,
et machines à café, tout ça interdit parce qu'il y avait le Covid. Donc on s'est adapté et on s'est mis à vivre en autarcie. Donc forcément, les restaurants routiers ont souffert de ça et il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte.
Alors ça, c'est intéressant parce que cet épisode du Covid, est-ce que ça apparemment, ça a modifié complètement les habitudes ou
Ah
une partie des habitudes?
oui, tout à fait. Et même par rapport au rythme du travail, vous faites vos heures. Si vous avez 10 heures ou 4 h 30 à rouler, vous vous arrêtez pas forcément à l'heure du repas.
Ça veut dire que vous êtes complètement maître de votre horaire.
Ouais. On
Et
fait ce qu'on
donc,
veut.
enfin, au départ, quand même, on vous
Il
dit,
gère.
il faudrait que ça soit arrivé dans tel délai. Ou
Oui,
comment ça se
on
passe?
a
Oui, les délais.
des délais de
Oui, les
livraison,
délais de livraison.
des chargements, on charge à telle heure, mais on attend dans les usines pendant énormément de temps. On part à 18 h de l'usine, par exemple de Bordeaux, il faut vider à Narbonne le lendemain matin, je sais pas moi, 10 h. Donc, sachant qu'il y a 6 h de route ou 5 h de route, il faut qu'on inclue notre coupure dedans. Donc, c'est à nous de calculer pour aller au plus loin, de s'arrêter. De façon qu'on n'ait plus qu'une coupure à faire et pas deux gérer, on gère le temps.
Et de pouvoir respecter l'horaire qui nous est
Dans la
donné. Dans la
possibilité.
possibilité, oui.
Ah oui. Dans la possibilité de la loi aussi.
Oui.
On ne dépasse pas pour le plaisir, pour livrer. Hein.
Parce que ça, vous êtes contrôlé comment pour ça alors?
Eh bien, avec le tachygraphe,
Tachygraphe.
c'est
Maintenant, c'est une carte.
une carte de conduite qu'on met dans le tachygraphe, il n'y a plus de disque. Et on est contrôlé par la DRE ou la gendarmerie ou la police. Et même maintenant, il y a des systèmes où ils n'ont pas besoin de nous arrêter. Le camion, il passe devant et il détecte s'il est en infraction. Et là, il l'arrête avec les nouveaux tachygraphes.
Oui, mais le problème, c'est qu'il peut remonter sur 28 jours
Ouais.
pour prendre un PV.
Ah oui?
C'est-à-dire que s'il y a 28 jours avant, vous avez fait un essai de vitesse ou quoi que ce soit, ou dépassé les heures de conduite, vous prenez une prune. Alors qu'avant, ça n'existait pas, ça. On faisait voir des disques sur une semaine, et voilà, ouais. Et que là, ça fait que le permis d'un chauffeur poids lourd, il a que 12 points, et il perd vite les points, parce qu'il y a des contrôles partout, il y a des radars partout. Et c'est quand même malheureux de comparer à un gars qui fait 150 000 km à l'année au papy qui va chercher sa baguette au village du coin avec 12 points.
Combien ça coûte le permis poids lourd? Est-ce que c'est vraiment difficile par rapport, je veux dire, est-ce que ça doit être très compliqué quand même?
Au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, oui. Ah oui, et le prix, je crois que ça varie avec entre le permis et l'AFCOS.
Ouais, 3 000-4 000, ouais.
Ouais, on ne doit pas être moins des 3 000 euros.
Ouais. Qu'est-ce que c'est, AFCOS?
C'est pour un service.
Formation continue obligatoire de sécurité
Ah oui.
qu'on est obligé de faire tous les 5 ans.
Tous les 5 ans.
Tous les 5 ans, on est obligé de refaire un. Maintenant,
Oui.
si vous n'avez pas cette formation-là, vous ne pouvez pas être chauffeur routier. Vous avez votre permis, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas conduire un camion. C'est interdit.
Alors, ça se passe sous la forme de stage,
Voilà,
d'un
de
stage
stage
assez long, d'une semaine.
Une semaine.
Ouais. Un jeune qui vient passer son permis, il passe la FIMO. Et suite à, quand il réussit la FIMO, au bout de 5 ans, on lui fait passer l'AFCO. C'est une révision de ce qu'il a appris à la FIMO.
D'accord, voilà. Les connaissances de base.
Voilà.
Mais alors, bon, donc c'est devenu quand même plus facile et plus confortable d'un côté, mais beaucoup plus compliqué de l'autre, quand même.
Oui, puis et pourquoi qu'on trouve de moins en moins de jeunes? C'est parce que déjà le prix, il est ralenti beaucoup. Il faudrait qu'il se fasse un crédit pour passer son permis. Et puis, vu comme un routier, il gagne aujourd'hui, ils ne sont pas avantagés, les gars.
Alors là, on arrive à un domaine qui est aussi intéressant à explorer. Est-ce que c'est un métier qui est bien payé ou est-ce que vous estimez que c'est un métier qui pourrait être mieux payé, étant donné les charges et puis les responsabilités que vous avez ?
Alors, mieux payé, c'est sûr.
Mieux payé, c'est sûr, avec la responsabilité du matériel qu'on a. Déjà, c'est un camion, ça vaut quand même entre 150 et 250 000 euros, un véhicule. Donc, on a cette responsabilité. Après, on a la marchandise, on a faire les papiers, l'administratif et tout qu'on fait, nous, qu'on donne après à nos patrons pour se faire payer. On a quand même du boulot à faire. On ne fait pas que conduire. On décharge, on fait l'administratif aussi, on fait de tout. Et on contrôle tout ce qu'il y a à contrôler. Donc c'est vrai qu'on n'est pas payé et les nombres d'heures qu'on fait, on ne fait pas 8 heures, midi, 2 heures, 6 heures. Hein. On n'est pas à 35 heures. Hein. Nous, les 35 heures, on les fait en 2 jours. Hein. Donc c'est 15 et 15, 30. 15 heures d'amplitude par jour. Vous voyez, en 2 jours, on est déjà à 30. Hein.
Donc finalement, vous passez beaucoup de temps à faire de la paperasse et puis ensuite assurer la manutention.
Voilà, et l'attente, beaucoup d'attente dans les usines et compagnie. Donc c'est vrai qu'on n'est pas payé.
On n'est pas toujours prêt à vous accueillir et à décharger notre camion.
On a des rendez-vous pour charger, donc si on se pointe à 10h et qu'on a rendez-vous à 15h, on attend jusqu'à 15h. Voilà, mais c'est pas pour ça qu'on vous dit... Donc vous êtes dans l'usine, vous attendez, mais on ne vous dit pas, vous pouvez aller manger.
Voilà. Tout ça, comment ça se passe? Est-ce que c'est vos systèmes d'enregistrement qui l'enregistrent? Ou est-ce que vous devez présenter une espèce de feuille de route en disant, de telle heure à telle heure, j'ai fait ça?
Non, on téléphone, quand on est vide, on dit, tu vas à tel endroit, tu vas charger, tu as rendez-vous à telle heure pour recharger et telle heure pour vider. Donc c'est à toi de gérer après ton temps.
Et puis bon, pour les salaires, heureusement qu'il y a les frais de route, parce que les frais de route sont très importants. C'est ce qui amène à des gens de pouvoir manger au camion pour gagner un peu plus, parce que le salaire par lui-même, il n'est pas énorme. Et les frais de route, c'est intéressant. Donc les gars, ils profitent de ça pour arrondir un peu leur paye.
D'accord. Alors là, moi j'ai regardé un peu la documentation. J'ai vu que le salaire de base, c'était ces dernières années 11,34 € l'heure. Est-ce que vous confirmez que c'est autour de ça?
Oui, c'est ça. Mais après, ils nous payent des heures à 25% et des heures à 50%. Et si vous voulez, on est sur une base de sur 150 heures, sur 56 heures. Et après, ça va sur 203, c'est toujours 203 heures.
203, 210,
voilà. Ça dépend des entreprises. Et ouais. C'est des heures à 25 qui s'ajoutent et des heures à 50. Ce qui vous amène, mes derniers salaires que j'avais en 2014... Je tournais dans les 1 940 € de salaire de base, mon salaire que j'avais,
de
virement.
Une ancienneté
de 30 ans.
Effectivement, c'est pas le Pérou. Hein.
Et en frais de route, si on ajoutait des frais de route à ça, ça me faisait un salaire, je passais les 3 000.
C'est à peu près 1 000 € de frais de route par mois. Ça comprend les repas du midi, du soir et la nuit.
Et
le casse-croûte du matin. Et où on gagne un peu, c'est sur la nuit. Celui qui va manger au restaurant midi et soir, ça, il l'enlève. Mais où on gagne un peu, c'est sur la nuit. Bon, après, on ne nous donne pas énormément non plus. Hein. Une nuit, c'est pas une nuit d'hôtel à 50 €. C'est 17 €. Je vous défie de trouver une chambre d'hôtel à 17 €. Hein. Donc, c'est aléatoire.
Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu... d'abord, on va quand même parler des femmes, même si la dame que vous aviez voulu inviter, elle n'a pas pu être des nôtres, mais on la fera parler peut-être toute seule au nom de toutes les femmes. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu à nos auditeurs de l'entrée des femmes dans le métier?
Ben, pour moi, elles sont bien accueillies. Hein, et si elles se sentent capables de faire ce métier, pourquoi pas, hein, avec aujourd'hui la direction assistée, n'importe qui. Et comme on disait tout à l'heure, comme on ne change plus les roues des camions, donc une femme, elle est peu embêtée par ce genre de problème, tout ce qui est une manutention très forte. Avant, à l'époque, on débâchait les remorques, il fallait monter sur le toit, débâcher la remorque. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, c'est des rideaux qu'on tire sur le côté. Donc pour une femme, c'est même pour un homme, hein, je veux dire, aujourd'hui, c'est plus agréable à faire ce métier. Avant, c'était pour ça qu'on trouve plus de femmes maintenant qui font ce métier.
Quand est-ce que vous avez vu arriver les femmes ?
Ben moi, j'avais 21 ans, j'ai vu sur le périphérique à Paris une femme avec une citerne.
Alors ça devait être là, quand vous, c'était il y a longtemps, mais c'était les premières, vraiment voilà, les premières, les pionnières.
J'étais très surpris quand j'ai vu sur les périphes à côté de moi cette femme au volant d'une citerne avec un Volvo. Là.
Maintenant, il est devenu commun de voir des dames au volant de bus et de camions. Mais quand même, elles sont quand même pas très nombreuses en ce moment, puisqu'il y a 3% à peu près de femmes sur 210 000, c'est ce qui fait un petit peu moins de 7 000 de dames qui sont conductrices de poids lourds.
Moi, j'ai toujours connu des femmes dans le transport. Ça ne m'a jamais choqué. Puis moi, je les accueille très bien. Chacun, elles sont capables de faire autant que nous. Hein.
Non, mais ça, c'est très bien. Ce n'est pas la question d'être choqué. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça, c'est un métier qui attire maintenant les femmes et qui en a de plus en plus ?
Ah oui, il y en a de plus en plus. Déjà parce qu'on est autonome. Elles préfèrent, elles font le même boulot que nous, donc elles sont tranquilles, elles n'ont personne derrière elles, elles préfèrent ça que de rester à l'usine, à mettre des barquettes dans un carton ou des trucs comme ça.
Elles sont comme nous, elles sont assez de passion.
Elles ont le même salaire, elles ont le même. Elles ont les mêmes passions, donc forcément on les retrouve sur les meetings ou autres, elles aiment ça, elles aiment la passion.
C'est quand même difficilement conciliable avec une vie de famille. Hein. Alors, vous me disiez qu'Alice a été mère de plusieurs enfants. Voilà, donc souvent.
Elle trouve soit une nourrice ou sa maman. Donc, elle a toujours su se débrouiller. Les enfants, ils sont bien élevés, il n'y a pas de problème. Hein. Non, c'était sa passion, elle voulait faire ça, elle était caissière avant.
Comme le temps avance, on va passer maintenant peut-être, alors ça va peut-être plus intéresser Maverick, mais vous aussi vous êtes au courant de ça. Le problème de la concurrence, en particulier dans le transport international, mais même en France, des autres transporteurs étrangers, comment ça se présente ?
Ben, ça se présente que c'est très, très difficile vis-à-vis des contrôles internationaux en Europe. On n'a pas le droit de faire de cabotage, plus de 3 transports sur en intérieur de France quand on est étranger. Et il y en a, ils font un mois, deux mois complets, tant qu'ils ne se font pas contrôler. Ben, ils ont une vingtaine ou trentaine de voyages inter-France à des tarifs mineurs. Donc il y a la concurrence déloyale. Après, il y a les petits poids lourds de Polonais ou de Roumains ou Bulgares, les 3 tonnes 5, eux, ils ont le droit de rouler les week-ends, samedi, dimanche, jour et nuit. Ils n'ont rien qui les contrôle sur les temps de service, les kilomètres qu'ils font, le repos. Ils n'ont jamais de repos. Maintenant, ils obligent ces gens-là à dormir à l'hôtel le week-end. Il faut qu'ils fournissent une facture, donc ils vont dans les Formule 1.
D'accord.
Vous prenez toutes les Formule 1, il y a 3 ou 4 fourgons de Polonais. Et maintenant, ils sont obligés de présenter aux forces de l'ordre un ticket de coupure de 24 heures en hôtel pour se restaurer.
C'est une manière de contrer la possibilité qu'ils avaient dont ils usaient de rouler beaucoup plus longtemps que de raison.
Leur patron les faisait bosser. Alors, vous avez des semi-entières qui arrivaient en frontière, et comme en France, il y avait des lois qui sont différentes de leur pays, ils avaient des petits camions 3 tonnes 5, ils dispatchaient la marchandise, et eux, ils pouvaient rouler le week-end. Donc, c'est ça, des banquettes, des canapés, tout ce qui s'en suit, tout du matériel léger. Mais c'était une concurrence éloignée, comme disait Christophe. Ces gens-là, ils pouvaient charger dans leur pays, en Pologne ou en Biélorussie, où vous voulez, en Lituanie. Arrivés en France, ils vident. Ils avaient le droit, mettons, de vider à Marseille, de recharger à Marseille pour monter à Paris, et de Paris, mais ils ne pouvaient pas dire d'aller autre part. S'ils pouvaient aller en Bretagne, mais il fallait qu'ils rechargent après pour aller pour son pays. Et c'est ce que disait Christophe, c'est qu'ils rechargeaient, en fin de compte, ils restaient en France, ils faisaient du cabotage. Ils n'ont pas le droit. Ils doivent retrouver un chargement pour qu'ils puissent les ramener à leur pays.
Est-ce que... Alors, j'espère qu'on a à peu près balayé tous les problèmes. Est-ce que quelquefois, je vais quand même vous poser à tous les deux une question fondamentale, est-ce que quelquefois la solitude vous pèse à bord de votre camion ?
Ça m'est arrivé, oui. Ça m'est arrivé. Quand on voit qu'on arrive en week-end et puis qu'on est dans un pays étranger, qu'on voit les gens qui sont en famille, ça fait mal. Quoi. On se dit, ah merde, on est comme un couillon dans le camion.
Vous avez passé le week-end sur une aire d'autoroute et là...
Moi, j'en ai, par rapport à Christophe, moi, j'ai passé qu'un week-end, c'était en Andalousie. Hein. Bon, c'est vrai, quand on vous dit, on voit les gens qui sont en famille, ça nous fait un peu peine, quand on se dit, merde, on est tout seul, nous, comme des couillons. Et que Christophe, des week-ends, il en a passé plus d'un, il pourrait plus vous en parler.
Non, alors, votre expérience.
Moi, mon expérience, je passais quand même 2 à 3 week-ends par mois sur la route. Sur 52 week-ends de l'année, j'en passais la moitié sur la route. Donc, moi, j'aime la solitude, je suis tout seul, je suis très bien, je suis indépendant. Et puis voilà, le monde ne m'intéresse pas. Enfin, m'intéresse pas. Je cours pas après le monde. Si je suis tout seul, je suis très bien.
Si le confort s'est amélioré au point que vous soyez quand même à peu près bien, et puis que vous puissiez regarder un peu la télévision.
Moi, je vivais très bien. Et puis bon, en général, j'étais tous les week-ends que j'ai fait bloqué sur la route, j'étais toujours à l'étranger. Donc, j'étais pas en France. Donc, je me garais dans des endroits. Où je pouvais me déplacer à pied, visiter les villes ou autres. Je ne me mettais pas au milieu de nulle part ou sur une autoroute au milieu de nulle part. Mais c'était un plaisir pour moi de partir comme ça, 2-3 week-ends, ça ne me dérangeait pas.
Il y a une question que je ne vous ai pas posée, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Est-ce que vous avez eu des... Est-ce que vous avez eu des marques de camions que vous avez vraiment aimées ?
Moi, depuis tout jeune, c'était Volvo. Ah oui. Un Volvo F89 que j'ai eu par la suite, à l'âge de 21 ans, j'étais heureux comme tout. Malgré que ce n'était pas confortable, mais j'étais heureux, je voulais ce camion.
De toute façon, on aime certaines voitures.
Et aujourd'hui, les derniers que j'ai eus, c'est vrai, c'était un confort, c'est le Renault, le Magnum, là. Moi, j'étais heureux comme tout là-dedans. Certains n'aiment pas, moi, j'adorais, parce que c'est une cabine qui est très spacieuse, on peut être debout dedans, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Quoi. On avait un fauteuil qui se pivotait comme les camping-cars... une tablette qui se reposait. Donc c'était, moi, j'ai bien aimé mon dernier camion, oui.
Et vous, Maverick ?
Moi, oui. Moi, le DAF, j'aime bien. C'est mon 4e DAF que j'ai. J'en suis très content. Après, j'ai eu des Renault, j'ai eu des Volvo. Et Scania aussi. Mais bon, le DAF, un confort...
Bon, on va quitter la nostalgie. Et je vais vous poser une dernière question que je pose toujours aux invités de cette émission. Est-ce qu'il y a une vie après les camions ? Est-ce que vous avez d'autres passions que les camions ? Est-ce que vous avez... Où est-ce que vous en aurez, puisque Maverick n'est pas tout à fait encore arrivé à l'âge de la retraite ?
Ah, mais je ne suis pas à l'âge de la retraite encore, mais j'ai plusieurs passions, dont les véhicules militaires, dont... les collections de maquettes, j'ai pas mal de hobbies, la moto, les véhicules militaires.
Ça reste quand même dans le domaine du moteur explosion.
Voilà, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est un piston, ça m'intéresse.
Et alors, Gérard, vous ?
Moi, la passion, oui. Ça a toujours été ce métier, et ma femme et mes enfants. C'était et c'était ma passion, bon, c'était de rouler, de partir, et content de revenir et de retrouver ma petite enfouillée.
Mais vous aimez encore conduire et rouler. Vous appréciez encore la conduite
Oui, j'apprécie, oui, j'aime bien conduire, ça c'est sûr. Pendant, je compte même plus, je dois être rendu à 6 millions et quelques de kilomètres sur une vie.
L'important, c'est que vous soyez un retraité heureux. Ouais. Maverick, j'espère que vous serez rapidement un retraité heureux.
Dans 10 ans, normalement.
Dans une dizaine d'années encore, à arpenter les routes. Je vous souhaite bon courage, je vous souhaite que la technique évolue encore, que le métier soit de plus en plus agréable. Merci messieurs, merci de votre témoignage.
Merci.
Et puis à une autre fois, j'espère.
Avec plaisir, quand on peut.
Ouais. Avec Alice ou bien...
Avec Alice, oui. De pouvoir connaître la vie d'une femme routière, ça va se faire.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
J'en parle. Si l'heure vient à sonner, s'asseoir à sa table.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.